Pour le moment, nous allons commencer par prendre un texte qui va nous servir de prière au début de l'évangile de Saint Luc.
Quand elle est née, mais cette tradition vient du fait
que quand quelqu'un était malade, on allait, c'est-à-dire la communauté, c'est-à-dire une personne, c'est-à-dire le curé, peu importe, quelqu'un de la famille, on allait dire sur lui un évangile. On allait prier l'évangile. Mais comme l'évangile, hein, quel que soit l'évangile, même Saint Marc est le plus court, ça fait quand même 16 chapitres, on n'allait pas nécessairement passer une heure ou deux chez le malade à lui réciter l'évangile. Mais on prenait l'évangile de Jean. Et comme, suivant la tradition, tout l'évangile était contenu dans les 18 premiers versets, eh bien, on lisait les 18 premiers versets. On lisait l'évangile. J'ai encore connu des vieilles personnes qui avaient lire l'évangile de Saint Jean, le dernier évangile qu'elles connaissaient par cœur, en latin, l'évangile. Ça faisait parfois, donc chez un malade ou chez un mourant, ça faisait parfois un peu l'impression d'un talisman, hein, c'est vrai. Mais en même temps, ça ne pouvait pas faire de tort. Et puis, c'est passé cet évangile à la fin de la messe, ou de la fin de la messe, c'est passé pour faire qu'on le récit, c'est pas très clair. On ne sait pas très bien ce qui a été promis. Mais c'était conçu comme l'évangile pour la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'il fallait comprendre. Et vous verrez que l'évangile de Jean n'est pas quelque chose à comprendre. C'est une réalité à vivre. Et c'est vrai que tout dans l'évangile de Jean est en quelque sorte énigmatique. On n'est pas sûr qui l'a composé, on ne sait pas quand il a été composé, on ne comprend pas exactement pourquoi il a été composé de cette manière, et tout est à l'avenant. Et le texte lui-même n'est pas toujours tout à fait sûr, il y a quelquefois des variantes dans les manuscrits. Et ceci n'est pas mauvais du tout. C'est pour nous dire que nous n'avons jamais barre prise sur la parole. La parole de Dieu nous dépasse. Et ce qui nous paraît être l'évangile le plus courant, parfois le plus qu'on aime le mieux, reste toujours au-delà de ce que nous pouvons en percevoir. Tant mieux, il y a de la place et du temps pour tous ceux qui viendront après nous. Peut-être pas mieux, mais ils pourront davantage entrer dedans. Grâce à nous, qui les avons précédés. Comme nous bénéficions des 2000 ans d'études, de lectures, de prières, de commentaires de l'Évangile. C'est vrai que depuis une bonne vingtaine d'années à peu près, on revient de plus en plus à la lecture de l'Évangile de Jean suivant toute l'Écriture. On voit comment l'Évangile reprend l'ensemble de l'Écriture. Et c'est vrai que plus on est familiarisé avec les livres de l'Ancien Testament, plus on découvre la perspective de l'Évangile. Et donc c'est un va-et-vient constant qu'il nous faut faire et il nous faudra donc faire. Alors je commence par prendre ces 18 premiers versets, en faire une première lecture, et nous allons essayer, comme nous pouvons, de découvrir quelque chose de ce que ça signifie. Je ne sais pas s'il faut dire de dire. Parce que la parole de l'Évangile tombe toujours sur quelqu'un. Et ce quelqu'un est toujours d'une manière ou d'une autre prévenu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas pâte absolument fraîche et molle et docile. Nous avons des présupposés, nous connaissons un certain nombre de choses, et la parole tombe toujours à l'intérieur de tout cela, et donc nous recevons la parole toujours à notre mesure. Les anciens disaient que quid recipitur, modum recipientis recipitur, ce qui veut dire tout ce qu'on reçoit, on le reçoit à la mesure de ce qu'on est. récipient est grand, il reçoit beaucoup, s'il est petit, il reçoit peu. L'important, c'est d'être rempli, qu'on soit grand ou petit, ça, ça a fait peu d'importance. Et d'être rempli, de se laisser remplir, ça, c'est essentiel. Que ce soit un dé à coudre ou un baril. En commencement, elle était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et Dieu, elle était la parole. Celle-ci était en commencement auprès de Dieu. Tout par elle, il ne faut pas dire pas, arriva ou devint. C'est difficile à dire. Tout par elle arriva, ou tout par elle devint. Et hors d'elle, n'arriva ou ne devint pas même une chose, pas même un littéralement, qui était arrivé ou qui était devenu. En elle, vie était, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière dans la ténèbre brille, et la ténèbre ne la pénétra pas. Arriva ou devint un homme envoyé de chez Dieu. Son nom à lui, Jean. Celui-ci vint vers un témoignage, afin qu'il rende témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient par lui. Elle n'était pas celui-là la lumière, il n'était pas, pardon, celui-là la lumière, mais afin qu'il rende témoignage au sujet de la lumière. Elle était la lumière, la véritable, qui illumine tout homme, venant vers le monde. Dans le monde, elle était. Et le monde par elle, arriva, ou bien demain. Et le monde ne la connut pas. Vers ses propres, elle vint. Et ses propres ne la prirent pas avec. Or, tout autant qu'il a pris, elle leur donna autorité pour devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient vers son nom. Elle, ou bien eux, l'humanité se sépare, qui n'ont de sang, ni de volonté de chair, ni de volonté d'homme, mais de Dieu, furent engendrés. Et la parole, chair, arriva demain. Et elle planta sa tente en nous. Et nous considérâmes, nous contemplâmes, comme vous voulez, sa gloire, gloire comme d'un unique engendré de chez un père. Pleine de grâce et de vérité. Jean rend témoignage à son sujet. Et il a crié, disant, celui-ci était, dont je dis, celui qui derrière moi vient, devant moi est arrivé. Parce que premier de moi il était. Parce que de son accomplissement, nous tous, nous primes. Et grâce contre grâce. Parce que la loi par Moïse fut donnée. La grâce et la vérité par Jésus-Christ arriva. Dieu, personne ne l'a vu, jamais. Un unique engendré Dieu, ou un unique engendré Fils, là aussi, les familles qui se séparent, celui qui est vers le sein du Père, celui-là expliqua. Voilà donc un texte, quand il est lu comme ça, dans une traduction tout à fait littérale, n'est pas tout à fait compréhensible. Et comme je vous le disais tout à l'heure, heureusement, il faut creuser. Le texte de l'Évangile n'est jamais tout à fait compréhensible, comme la Bible d'ailleurs. Quand on pense avoir compris, c'est probablement qu'on a oublié beaucoup de choses. Laisser tomber des choses qu'on ne comprenait pas, tant les choses essentielles sont celles qu'on ne comprend pas. Et donc celles-là, il faut les creuser, il faut les, les mâcher longuement, longuement, longuement. Et un beau jour, quand on n'y songe plus, une illumination, la lumière, comme ils disent. Alors voyez, ces 18 premiers versets commencent comme commence le premier livre de la Bible, en commencement. C'est évidemment pas pour rien que ce livre commence en commencement. Alors, ne me demandez pas quand elle commence. Le commencement, c'est toujours au moment où elle commence. Hein. Maintenant. Et ce maintenant fait allusion, en fait, renvoie à un autre maintenant, à un autre commencement. Dès que vous entendez au commencement, nous disons déjà au commencement, tandis que Saint Jean, comme d'ailleurs le livre de la Genèse, ils disent en commencement. Et Yeshua qui traduit en tête. En tête. Et en départ. Et nous nous situons cet au commencement dans une origine lointaine. Alors que c'est toujours l'acte de prendre la parole, ou de lire l'écriture, ou de se mettre à la prier, qui est le commencement. J'entre dans le commencement quand je commence. Et donc, vous voyez, ce mot qui est au début de la Genèse et qui est au début de Saint Jean, c'est un mot. Donc, Saint Jean fait référence à la Genèse, et Saint Jean et la Genèse nous demandent, mais est-ce que tu commences? En commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui. En commencement, vous avez une création. Et on va vous dire comment elle se fait, cette création. Or, la terre était vague et vide, tohu-bohu. Les ténèbres couvraient l'abîme, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Donc, quand ça commence, c'est déjà là. Voilà. En commencement. Et donc, le commencement, il faut encore le projeter en arrière. Oui, parce que ce n'est pas un temps. Le commencement, c'est Dieu. Et Dieu commence quand nous le laissons commencer. Donc, ce n'est pas un moment primordial, c'est le maintenant. Et puis tout de suite, vous avez Dieu dit. Et vous avez comme ça 10 fois Dieu dit, les 10 premiers commandements. Les 10 premiers commandements sont dans la Genèse. Ils sont repris par l'Exode, ils sont repris par le premier commandement, mais les 10 commandements sont déjà au départ. Donc les 10 commandements, ce sont les commandements de Dieu, c'est-à-dire les commandements que Dieu se donne à lui-même. Dieu commence par entrer dans une loi, la loi de la création, c'est-à-dire la loi de la communication, créer et communiquer de soi. Vous voyez, au commencement, en commencement, il y avait la parole. Et la parole se met à distinguer les choses, parce que c'est Dieu, c'est comme ça que Dieu va travailler. Il va nommer les choses en les opposant les unes aux autres. Le ciel, la terre, le jour, la nuit, le sec, le moutier, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, etc. On va mettre de l'ordre. Donc la parole ordonne. C'est en ordonnant qu'elle fait être. J'ai dit ordonne, oui. Ordonne, ça veut dire aussi commander. Ça veut dire commander, ça veut dire mettre de l'ordre. Il faudra s'habituer à ça. Dans Saint Jean, il faudra toujours découvrir les différents sens d'un mot. Et il faut bien les traduire d'une certaine manière pour faire surgir ce que Saint Jean veut dire. Quand il dit quelque chose au sens matériel, naturel ou historique, comme disent les pères de l'Église, il dit toujours quelque chose sur le plan spirituel. Il faut toujours voir quelque chose de plus que ce qu'on comprend. Et c'est ce surplus sur lequel nous n'avons pas bas, et qui est le sens. En commencement, Dieu créa. Donc on nous dit, quand on dit En commencement, elle était la parole. Et on nous dit que maintenant que je commence, une création s'opère. Quelque chose qui tombe. Et c'est toujours le ciel et la terre. C'est toujours le rapport entre Dieu et l'homme. Entre le monde de Dieu et le monde de l'homme. Et c'est tout cela lié création. Création, c'est communication. C'est la parole. Et donc la parole, vous voyez ce que c'est. Mais la parole que le juif traduit par davar, c'est quelque chose de très intéressant, la parole, en hébreu. Davar, c'est la même racine que midbar. Midbar, c'est le désert. Curieux, hein, que le désert et la parole soient la même racine. Et figurez-vous que c'est aussi la même racine et que le devir, qui est derrière le Saint des Saints, l'arrière-temple, si vous voulez. Ah, il dit l'arrière-temple. Eh bien, la parole, c'est toujours quelque chose qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, qui est proféré. La parole est proférée. Proférée, ça veut dire portée d'arrière vers l'avant. Pro veut dire vers l'avant, et féro veut dire porter. Proférer une parole, elle était intérieure, je ne savais pas ce qu'elle était, et je la fais sortir. Et quand je la fais sortir de moi, je deviens parole. Et je deviens, ah tiens, je viens d'utiliser le terme. J'arrive parole. Vous voyez, la parole pour nous signifie un devenir. Quelque chose qui agit, un dynamisme. Et donc il faut dire que Dieu est dynamisme. Une manière de le dire, hein, que Dieu est mouvement, mouvement d'arrière vers l'avant, mouvement de communication, et bien, en commencement, elle était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et dire que la parole c'est Dieu, c'est juste. Mais dire que la parole est auprès de Dieu, c'est encore plus juste. Parce que c'est vous dire que Dieu n'est pas exactement sa parole. Dieu est encore plus qu'une communication. Comme d'ailleurs chacun d'entre nous. Nous sommes toujours plus que ce que nous disons. Nous disons qu'une toute petite partie, une infime partie de ce que nous sommes. Il faut bien marquer que ce n'est pas tout à fait pareil. Donc la parole était auprès de Dieu. Être auprès, c'est tout ce que signifie lorsqu'on veut parler de proximité, d'intimité. Et nous voyons bien qu'au départ, on dit parole et Dieu. Et la parole, ben, on la connaît. La parole pour un juif, c'est la plus grande partie de ce livre, ça c'est la parole. Si la parole est déjà l'état d'écrit, mais la parole, donc c'est toute la parole qui a agi à l'intérieur d'un peuple qui a pris conscience qu'il était vivant par la parole de Dieu. Et quand on parle de parole, pour un juif, c'est la loi, je dirais plutôt la Torah, c'est-à-dire l'enseignement. Puis, ce sont les prophètes. Et ici, c'est pluriel, c'est pas une seule loi, c'est pluriel des prophètes. Et puis des écrits de sagesse. La loi se réfère toujours au prêtre, parce que le prêtre est gardien de l'enseignement de Dieu. Les lois et prêtres sont toujours liés dans la mentalité juive. Prophètes et envoyés sont toujours liés également. Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Ou quelqu'un qui a pour mission d'exprimer quelque chose qui vient de Dieu. Et les écrits de sagesse, c'est justement mis par écrit. Hein, les écrits sont mis par écrit. C'est la parole mise par écrit pour dire ce que devient la parole dans le quotidien. Et le maître du quotidien, c'est le roi. Le roi étant à la disposition de chacun, de chaque membre de son peuple. Roi, prophète, sage. Bon, loi, prophétisme, sagesse, loi, prophétisme, sagesse, et prêtre, prophète, prophétie, envoyé, sagesse, roi. Sagesse royale, c'est Salomon qui est, hein, qui parle de la sagesse. Voilà des catégories qui sont extrêmement profondes, et pour le juif, ça signifie la parole. Donc la parole, c'est un dynamisme dans une histoire. Et parcourir tout ce chemin, c'est entrer dans la parole. La parole est faite auprès de Dieu, donc c'est entrer dans son intimité. Et Dieu, elle était la parole. Vous voyez, maintenant je peux dire, quand j'ai fait la distinction, je peux dire maintenant qu'il faut dépasser la distinction pour regarder l'intimité. Ce sont deux choses différentes. La parole, ce n'est pas Dieu. Et pourtant, la parole, c'est Dieu. Il me dit cela. Il dit ça très, très concrètement. Celle-ci était en commencement auprès de Dieu. Vous voyez, tout de suite, comme pour corriger une intimité trop grande, elle dit, celle-ci était en commencement auprès de Dieu. Donc Dieu parle depuis toujours. Depuis qu'il est Dieu, il parle. Hein, c'est intéressant. Et quand il est tout seul, eh bien Dieu parle tout seul. On répond comme ça aux enfants. Et Dieu parle tout seul. Oui, mais il parle tout seul parce qu'il n'est pas tout seul. Quand il parle tout seul, c'est parce qu'il n'est pas tout seul qu'il parle. Il parle parce que tu imagines que ton papa, ta maman, ton camarade sont là. Donc ils sont là. Ils sont là, c'est pas tout seul que tu parles. Eh bien, c'est comme ça. Dieu parle tout seul, mais il n'est pas tout seul. C'est ce qu'il veut nous dire. Tout par elle arrivera, ou tout par elle demain. Derrière ce mot, les théologiens ont mis quelque chose de très profond. Ils parlent de théologie et d'économie. Ils disent Dieu est en trois personnes à l'intérieur de son propre mystère. Ça, c'est la théologie, c'est la parole sur Dieu. Mais Dieu se met en route et il fabrique des choses, il crée. Et à ce moment-là, nous avons une économie, c'est-à-dire une loi de la maison. L'économie, c'est la loi de la maison. Ou économia. Et à ce moment-là, cela devient ou cela arrive. À ce moment-là, il y a un dynamisme extérieur, je vais dire autrement. À ce moment-là, un dialogue est entamé. Quand Dieu parle, puisqu'il est parole, il entame un dialogue. Je vous l'ai dit, on ne parle pas tout seul. Tout par elle, tout, je sais que tout. Tout. Tout par elle. C'est la création, oui, le ciel et la terre, sans doute. Sans doute. Mais c'est aussi tout le trajet de cette parole à travers les siècles. Tout paraît la création. La parole est créatrice. Et c'est vrai. C'est vrai. Je suis vraiment créé quand je reçois mon nom. Et je ne peux recevoir mon nom que parce qu'il m'est donné. Je ne choisis pas mon nom. Comme je ne choisis pas de vivre. Tout paraît. Donc moi aussi. Moi aussi, je suis l'effet d'une parole de Dieu. Et hors d'elle, n'arrivera pas même. Il n'y a pas moyen de sortir de cette parole. Je suis toujours enserré par cette parole. Et évidemment, tout de suite, nous sommes renvoyés au psaume que vous connaissez bien, 138-139. Nous avons fait beaucoup d'incursions dans de ce genre. 138-139, qu'est-ce qu'il dit ce psaume 138-139? Il parle justement de la parole de Dieu. Seigneur, tu me sondes, tu me connais, que je me lève ou que je m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées, que je marche ou me couche, tu le sens. Mes voix te sont toutes familières.
Voilà. J'ai envie de la même chose que ça.
Avec un petit plus. Le plus, c'est que Dieu est communication, même à l'intérieur de lui. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici, tu la sais tout entière. Derrière et devant, tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main. C'est une main qui parle. Et aussi, on peut dire que c'est une parole qui a des mains.
C'est une parole qui agit autrement.
Vous voyez, la parole agit. Dieu dit, et sa parole est, comme on dit aujourd'hui, performative. Elle fait ce qu'elle dit. Quand je dis à quelqu'un je t'aime, je fais ce que je dis. J'aime.
L'ange d'elle n'arrivera pas même à
ce qui est arrivé.
Parce que Dieu, il est dans le réel.
Dieu n'est pas dans ce qui pourrait être.
Rien de ce qui est arrivé n'arrive sans la parole.
Derrière et devant ton ministère, tu as mis sur moi ta main. Donc je n'échappe pas à la parole de Dieu, grâce à Dieu. Puisque je suis grâce de Dieu, grâce de sa parole.
Mais on aimerait bien savoir un petit peu
ce que c'est que cette parole, voyez ? Parole de Dieu. Ben, c'est vrai que, je vous ai dit, toute la parole de Dieu, il faut lire les 1000 pages ou les 1200 pages de l'Ancien Testament, hein, oui, c'est à peu près 1200 pages, c'est ça. Hein? Il faut lire tout ça pour savoir ce que c'est que la parole. Eh bien, je vous dis tout de suite le contenu de cette parole. Il va droit à l'essentiel. Elle était. Immédiatement apporté au Deutéronome, hein, au premier psaume d'abord, hein, psaume, comme on dit, des deux voix. Heureux l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies. Mais ce premier psaume reprend le chapitre 30, la fin du chapitre 30 du Deutéronome. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Ah tiens, la création est un témoin. C'est un témoin contre. Contre, c'est en face d'eux. Hein? Bon. Je suis tout contre. Le petit enfant est tout contre sa mère. C'est contre lui. Mais nous voyons parfois contre adversatif. Dans la mesure où nous sommes des opposants, nous voyons les choses de manière adversative. Mais surtout contre, tout près. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, qui sont tous contre toi. Donc tu es libre, face au ciel et à la terre. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Je te propose. Mais attention, hein, ce n'est vie et mort, bénédiction, malédiction, ne sont pas sur le même pied. Il nous le dit tout de suite. Choisis donc la vie. Puisque je te présente la vie et la mort, tu choisis la vie. Parce que moi, j'ai choisi la vie. Voilà une parole de vie. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité, vous viviez. Aimant le Seigneur ton Dieu, c'est sa vie. Tiens, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, vous attachant à lui, car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que le Seigneur a créé à tes pères Abraham, Isaac et Jacob, selon eux. Il nous redit déjà toute la parole, mais avec quelques mots, il suffit d'évoquer ce qu'est la vie, et nous sommes partis. En elle, vie était. Et la vie était la lumière des hommes. Voici, vous avez des articles. La vie, la lumière de l'homme. Tiens, c'est drôle de dire que la vie, c'est une lumière. Oui, parce que la vie, je la reçois. Et la clé de ma vie, je ne l'ai pas.
la clé de ma vie, c'est celui qui me donne la vie qu'il a.
Celui qui me donne la vie, c'est celui en qui la vie était. Et vous aurez remarqué qu'il y a tout le temps des « étaient ».
Était.
N en grec. Et « était » signifie une durée. Tandis que quand on disait « devint », arriva, c'était un moment. Un moment précis. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, dans la ténèbre, on brille. Que la lumière soit. Et Dieu commence par là. Quand il parle, il fait de la lumière. Parler pour lui, c'est illuminer les choses. Et la ténèbre ne la pénètre pas. La ténèbre ne peut pas être victorieuse de la lumière.
Pourquoi ?
Mais parce que la lumière est première. Et quand vous regardez bien, quand il y a de l'ombre, c'est qu'il y a du soleil. Plus l'ombre est épaisse, plus le soleil est fort. Alors, je peux regarder l'ombre, mais l'ombre me renvoie normalement vers le soleil. Et je dis, la ténèbre ne pénètre pas la lumière. Pourquoi ? Parce que la ténèbre, au fond, est créée, en quelque sorte, par le soleil. C'est parce qu'il y a de la lumière qu'il y a aussi de l'ombre. Et donc, que signifie l'ombre ou la ténèbre ? Une ouverture vers la lumière, une capacité de recevoir la lumière. Parce que la ténèbre ne pénètre pas la lumière, c'est la lumière qui pénètre la ténèbre. Et la nuit, comme dit le psaume, comme le jour, illumine. Vous avez encore la même image dans le psaume 138-139. Ce sont des images tout à fait courantes. Quand on connaît un petit peu hein, tout cela. Et alors, arriva un homme envoyé de chez Dieu. Son nom à lui ? Jean. Celui-ci vint vers un témoignage afin qu'il rende témoignage au sujet de la lumière. Afin que tous croient. Ah, c'est la première fois que l'on utilise et que nous voyons ce mot « croit ». Il n'était pas celui-là, la lumière, mais afin qu'il rende témoignage au sujet de la lumière. Ah, ceci est aussi intéressant. Donc la lumière ne peut éclairer que moyennant un support. La lumière part d'un point, si vous voulez, et elle est exprimée d'une certaine manière. Nous avons des lieux ou des points de lumière, comme nous disons. Donc, arriva un homme. Ici, on parle d'homme. Jusqu'ici, on n'a parlé que de Dieu. Et maintenant, voici que le arriva, on disait tout à l'heure qu'il n'y a rien qui arriva ou pas une chose qui arriva. Et maintenant, on parle d'un homme. Ça nous concerne plus directement. Un homme. Envoyé de chez Dieu. Ah voilà déjà, nous savons que c'est un prophète. Envoyé, renvoie vers. De chez Dieu. Tout à l'heure, nous étions auprès de Dieu. Ici, nous sommes chez. Auprès, c'est plus intime que chez. Chez, c'est vraiment dans une proximité, bien sûr, mais auprès, c'est vraiment tout à fait le contraire. Donc ici, nous avons quelqu'un qui vient de Dieu, de chez Dieu. Et son nom à lui, Jean. Quand on parle d'homme, on a un nom. Je vous disais tout à l'heure, la parole dit le nom, Yochanan, le Seigneur a fait grâce. Ah voilà, et ce nom est quand même significatif aussi, significatif de tout ce qui vient d'être dit. Arriva un homme envoyé de chez Dieu, son nom à lui, Jean. Celui-ci vint. Ah, ça c'est ce que fait l'homme. L'homme, il vient. L'homme, il marche. Va d'un endroit dans l'autre. Donc on dit qu'il est envoyé de chez Dieu et il vient. Donc on voit que le mouvement de Dieu qui donne la lumière et la vie, que ce mouvement est pris en charge en quelque sorte par un homme. Donc les hommes savons, par le terme d'envoyé, nous savons que cet homme signifie un prophète, et donc quelqu'un qui va rendre témoignage, dire ce qu'il a vu chez Dieu. Celui-ci vint vers un témoignage. Et vous voyez, il y a un mouvement. Ce n'est pas tout à fait pour un témoignage, bien sûr que c'est aussi pour, mais vers un témoignage. Parce que le témoignage, c'est quelque chose qu'on construit. Témoigner, c'est construire une réalité avec celui qui n'a pas vu, afin qu'il rende témoignage au sujet de la lumière. Donc lui semble avoir vu davantage, ou plus profondément, plus intimement, la réalité de la lumière dont nous avons dit qu'elle était vie, pour l'homme, et il vient comme un témoin. Il vient en quelque sorte pour apporter la lumière. On représente parfois Jean-Baptiste comme un coureur. Une torche en main, une torche allumée, mais voilà, c'est ça. Elle était, donc la lumière, elle devait avoir des porte-paroles, des porte-lumières. Mais cette lumière a un but. Et ce but, Jean ne va pas l'ignorer jusqu'à la fin de son évangile. Afin que tous, tout en elle arriva, afin que tous, on a parlé d'hommes, maintenant on peut parler de tous les hommes, croient à lui. Ça c'est énorme, hein. Dire que celui dont on va parler, hein, c'est envoyé Jean, dire qu'il est le médiateur pour tous, extraordinaire. Parce que quand on dit cela, c'est un peu reprendre l'image de Moïse, qui était un médiateur pour tous, pour toute la nation. Afin que tous croient. On ne vous dit pas ce que c'est que croire. Sans doute, on parle à des gens qui savent. Croire, c'est faire confiance à. C'est fonder sa foi sur. Je peux croire quelque chose, mais généralement je crois une personne. Croire un contenu, c'est toujours renvoyer ce contenu à la personne. Est-ce que tu crois cela ? Je le crois en cela. Tous croient par lui. Donc il est médiateur, il est ce parti. Tous peuvent croire, tous peuvent adhérer, comme le traduit Chouaki, hein, par l'adhésion au lieu de foi. Et donc, tous mettent leur confiance à travers lui. Vous voyez ici, Jean-Baptiste est au fond la figure de tout croyant. Il ne faut pas le lier seulement à une personne de l'histoire. Bien sûr qu'il y a une personne de l'histoire, mais en même temps, il devient figure. Et nous verrons à la fin de l'Évangile que cette figure va quelque peu se transformer dans le disciple que Jésus aimait. Finalement, c'est la même personne. C'est tout qui est médiateur entre Dieu et quelqu'un. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans la ténèbre, et la ténèbre ne la pénétra pas. Mais voyez, pour que la lumière brille, elle a besoin de témoins. Il n'était pas, il ne faut pas confondre, il n'était pas celui-là, la lumière. Mais afin qu'il rende témoignage pour le sujet, ne pas confondre la lumière avec celui qui la porte. Donc ici, il n'y a pas du tout de culte de la personnalité. Au contraire, la lumière, elle doit passer, elle doit être présente. Elle porte lumière, doit être passée, pour que la lumière puisse passer. Vous voyez, on nous dit d'une part ce que Dieu est, ce qu'il fait, qu'il est parole, lumière, vie, et qu'il a besoin le médiateur pour l'être. Et nous avons remarqué qu'il y a tout un jeu entre être et devenir, ou arriver. Dieu est, manifeste, il communique ce qu'il est. Voilà un premier départ. Quel est-elle ? La véritable. Alors, encore un mot johannique qui va revenir constamment. Qu'est-ce que c'est qu'être vrai ? Vrai, ça vient de la racine grecque, de apulapis, elantano, c'est-à-dire ce qui n'est pas caché. Et vrai, ce qui est manifeste. Le véritable, c'est pas seulement l'authentique, c'est quelqu'un qui démontre son authenticité. Donc il a un label de qualité. Le véritable. Et nous allons voir que il y a une mesure pour le véritable. Et cette mesure, c'est la vérité. Et nous verrons doucement que la vérité, c'est Jésus lui-même. Il est la vérité en personne. Mais jusqu'ici, on nous dit que, on nous a pas encore parlé de Jésus, on a parlé de la parole, on n'a rien humanisé en quelque sorte. Elle était la lumière, la véritable, qui illumine tout homme. Donc il n'y a personne qui est en dehors de la lumière, la véritable. Nous allons comprendre ça doucement tout à l'heure, mais on nous dit que tout homme est sous le feu de la rampe, le feu de la lumière. Elle était la lumière véritable qui illumine venant vers le monde. Elle vient comme l'homme vient. Donc l'homme est vraiment le porte-parole de cette lumière, elle vient vers le monde. Qu'est-ce que le monde ? Saint Jean